Attends. La main de Thierry Henry, c'est pas la main du diable également?
Et la main d'Unai Emery alors, Philippe?
Bah, la main d'Unai Emery, et je te dirais, bon, la première chose, c'est une énorme surprise en Angleterre, puisque depuis quelques jours, on ne parlait plus que de Mikel Arteta. Comme si c'était un fait accompli, y compris des journalistes et des sources très très proches du board d'Arsenal. Et puis tout d'un coup, ce soir, évidemment, venant de David Ornstein, journaliste extrêmement bien informé. Quand je dis extrêmement bien informé, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se lance absolument pas sans avoir de très très bonnes informations, très solides, on apprend que ça serait donc Unai Emery qui sera le prochain entraîneur d'Arsenal. Donc énorme surprise, mais en même temps, je vous dirais, excellent choix. Pourquoi excellent choix? Quand tu penses à l'état dans lequel se trouve Arsenal, son effectif actuel, sa position au classement de la Premier League, où ils ont terminé sixième et encore une fois en ayant peur à un moment que Burnley ne les rattrape, d'un club qui a besoin d'une reprise en main, d'un vestiaire qui a besoin d'une reprise en main, de quelqu'un qui ait à la fois de l'expérience mais qui soit également suffisamment jeune pour être proche de ce vestiaire, qui ait les idées tactiques qui conviennent. Je vois tout simplement parmi les candidats qui ont été proposés, j'en vois très peu qui, pour moi, seraient aussi adaptés à ce club que Unai Emery. Quoi qu'on en pense en France, quoi qu'on ait pu penser de son passage au PSG, moi je pense davantage à l'Unai Emery de Valence et de Séville. Des clubs qui étaient dans des situations un petit peu comparables à celles où se trouve Arsenal, ça paraît bizarre de dire ça, mais des clubs qui sont derrière les deux équipes de Manchester, derrière Liverpool aujourd'hui, qui n'ont pas les mêmes moyens financiers, les mêmes ressources, qui ne jouent pas à la Ligue des Champions, et qui va donc devoir faire un travail de reconstruction, mais dans une certaine rigueur, et certainement instiller plus de discipline à une équipe qui en manquait beaucoup ces dernières saisons. Et donc, pour toutes ces raisons, je me dis, bah, Unai Emery, tout compte fait, quand je regarde les autres candidats qui étaient en liste, je me dis c'est un choix tout à fait raisonnable, rationnel, et qui, pour moi, augure plutôt de bonnes choses pour les Gunners. Voilà.
Notre drôle de dame espagnole, ça c'est super chiant à dire, hein. Je le dis pas, c'est, je travaille pas celle lundi visiblement. Fred, t'en penses quoi toi de ce choix d'Unai Emery et de ce choix d'Arsenal finalement aussi?
Ben, alors il y avait une proposition énorme au niveau affectif, la Real Sociedad. D'ailleurs, Unai Emery a été approché par le président de la Real Sociedad il y a à peu près un mois et demi. À une question de la télé régionale basse qu'il avait déclaré tout son amour à la Real Sociedad. Bon, sauf que la Real Sociedad ne joue que la Liga espagnole la saison prochaine, hein. Il n'y a pas d'Europe pour une équipe qui a fini au milieu de tableau. Il y avait un gros problème qui était le salaire. Parce que Unai Emery était à, je crois, 5 millions nets par an à Paris. Bien sûr, impensable à la Real Sociedad comme salaire. Donc, voilà. En tout cas, ça me paraît un club qui risque d'être patient, contrairement au PSG. Parce que Unai Emery, c'est quelqu'un qui sent...
C'est pas les mêmes enjeux, hein.
Ben, c'est pas les mêmes enjeux. Puis, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour imprimer sa marque et qu'on lui fasse confiance sur une certaine période. Ça, c'est pas possible au PSG. On fait confiance pas longtemps au PSG. Il y a d'autres urgences. Donc, moi, je suis persuadé que Arsenal est un club qui a montré qu'on peut être un moment sans gagner de titre pour faire un projet. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour lui et pour Arsenal, quoi. Voilà. Puis ça met bien Emery, donc je trouve ça bien pour lui, quoi. Voilà.
Simonet, je crois que tu voulais réagir également, toi qui suis le PSG pour ton gamin.
Et surtout, Emery était suivi en Italie aussi. Naples était déçu. Je trouve que c'est un mariage parfait parce que Arsenal, c'est pas un club qui a toujours cette ambition de gagner. C'est un club qui n'a pas est sorti un peu de la porte principale de l'Europe, la Ligue des Champions, joue l'Europa League. Emery a maestro en Europa League. Je pense que peut ramener des belles satisfactions dans cette compétition Arsenal et peut-être arriver à faire quelque chose de plus. Je vois pas l'Arsenal être au premier plan en Premier League. Sinon, avec l'ambition, les projets et l'argent pour faire ça, sinon ils auraient cherché à tout prix de prendre un entraîneur comme Ancelotti qui était libre. Ils ont choisi Emery, c'est parce qu'ils ont compris que d'autres entraîneurs c'était pas possible et parce qu'ils ont pensé de faire un projet où gagner c'est pas la priorité.
C'est un peu dur ce que tu dis, c'est un peu un choix par défaut.
En gros, t'entends dire c'est un loser qui va dans un club de losers, quoi. C'est ça que tu me dis.
On parle quand même d'un entraîneur qui a...
Bah non, c'est ce que tu dis, si je l'ai entre les lignes.
Bah, tu l'as entre les lignes, mais tu le dis en façon très directe, non. J'ai dit que c'est le bon entraîneur pour le bon club.
Excusez-moi, mais
il a raison. Il a raison, Simonet. Il y a une patience Arsenal qu'il n'y a pas ailleurs. Et donc ça peut être bien pour lui, pour son projet. Je pense que c'est ce que tu veux dire aussi.
Naples ne prenait pas Emery, ne voulait pas Emery pour gagner les titres. Elle voulait Emery pour faire des choses intéressantes, pour chercher de rester dans une top 4 italienne.
Tu veux dire qu'il n'y a aucun club de top niveau qui allait le chercher, quoi. C'est ça que tu es en train de nous dire. Bah,
alors, quand il allait opérer Saint-Germain, il était cherché par Everton.
Non, mais je veux dire là
et
aujourd'hui.
Par Milan. Avec les moyens qu'il y avait mais Milan il y a
les gars,
deux ans.
À l'instant
en
T.
En ce moment, il y avait la Real Sociedad et Naples et Arsenal. Non, bien sûr que c'est la meilleure choix.
Mais c'est le meilleur choix. À l'instant T de la reconstruction d'Arsenal, le choix d'Emery, c'est pas forcément un choix de loser, comme Nicolas le disait. Mais moi, je pense que
Moi, j'essaie de dire choix d'interpréter.
Ouais. C'est un choix.
J'ai dit que c'est un choix pour construire tout de suite.
Mais c'est
pour reconstruire.
Je pense que c'est l'entraîneur Ridouane pour démarrer, pour tourner la page de Wenger, tourner la page Wenger, qui est quand même une page, un héritage lourd à porter.
Philippe.
C'est aussi la méthode Emery, vous me confirmerez, mais bon, c'est quelqu'un, moi j'ai parlé, je connais des joueurs qui ont joué sous ses ordres, c'est un entraîneur qui tactiquement est très très discipliné, qui demande beaucoup de ses joueurs, qui est très très rigoureux, qui sera sans doute beaucoup plus à l'aise avec un vestiaire comme celui d'Arsenal qu'il a été avec celui du PSG.
C'est peut-être une équipe où il va pouvoir imposer son football.
Comme il l'a fait à Valence, où il finit troisième sa deuxième saison. À Séville, il arrive, mine de rien, il finit en cinquième position sa première saison en Liga et il gagne la Ligue Europa. Ce n'est pas n'importe quoi. Je dis pas que ça soit un entraîneur de tout premier niveau, mais plaçons-nous où est Arsenal aujourd'hui. C'est un club qui fait deux saisons.
On est tous d'accord, c'est l'entraîneur pour construire
oui, mais le renouveau d'Arsenal.
Oui, mais toi Simone, tu l'as dit de façon
concrète.
On savait ce que t'insinuais.
Non,
on va dire les choses très clairement. Daniel Riolo, j'en ai parlé avec lui, tu as un chat. Un chat, c'est sournois. Père, j'ai rien d'autre à dire.
Par rapport à ce que disait Philippe sur les capacités d'entraîneur d'Emery, ce qu'il faut dire, c'est que moi, je pense qu'on sera tous d'accord. Je pense qu'Emery, c'est le top niveau en termes de tactique, en termes de qualité d'entraîneur pur, mais c'est pas un entraîneur qui a les capacités, on va dire, psychologiques et la capacité de management pour passer dans un club de top niveau. Et en ce sens-là, à Arsenal, c'est très bien.
Pour répondre à ce que dit Jonathan, c'est que au PSG, on lui a jamais donné les clés.
Bien sûr.
On lui a jamais
fait. Mais c'était à lui aussi de les prendre un petit peu.
Je termine la phrase, je passe la balle à Philippe. C'est un type que si on le laisse bosser, si on lui donne les clés, si on lui fait comprendre qu'il est le patron, il va faire beaucoup plus de belles choses qu'à Paris où les stars, quand il arrive,
la pote c'est dans les deux sens aussi.
Philippe. Oui, bah écoute, moi je dis qu'à Paris, là, son seul échec, ça a été le plus important, c'est en Ligue des Champions, parce que pour le reste, il s'est pas trop mal débrouillé.
Il a jamais réussi à tenir son vestiaire, Philippe.
Non. Oui, mais alors il arrive à Arsenal, il n'y a pas de Neymar dans le vestiaire. Voilà. Ça va déjà rendre les choses beaucoup plus simples. Ne limitons pas le top niveau européen à 4 ou 5 clubs. Il n'y a pas que les clubs qui gagnent des champions qui font partie du très haut niveau. Arsenal fait partie des grands clubs européens, à la même façon que l'Inter qui vient de retrouver la Ligue des Champions, qui n'y était pas, mais qui est un grand club européen. Voilà.
Philippe. Ok, alors des clubs avec des stars, si tu veux.
Il y a des joueurs qui à Arsenal ont été des superstars. Je parle de Mesut Özil quand il était au Real, et c'est pas Fred qui va me contredire là-dessus. Il avait été extraordinaire au Real. Je pense à Aubameyang qui était une superstar en Bundesliga, qui a fait des débuts fracassants en Première Ligue. Excusez-moi, vous regardez sa fin de saison, c'est quelque chose. Vous regardez Lacazette qui n'a pas été ridicule du tout. Vous regardez Mkhitaryan qui est quand même pas un joueur qui vient de nulle part. Je dis pas qu'il n'y a pas de reconstruction à faire. Je dis simplement que dans l'état actuel des choses, plutôt que de prendre un entraîneur extrêmement inexpérimenté, comme Mikel Arteta, qui apparemment était encore... hier soir, apparemment, il était encore convaincu qu'il allait avoir le job. Donc, il s'est passé quelque chose hier soir ou ce matin. Vous savez, il y a une part également de chaos dans le football qu'il ne faut absolument pas mépriser. Mais dans la tournure actuelle des choses, Unai Emery, c'est un choix complètement logique et qui est à la hauteur d'Arsenal. Les deux, pour moi, comme disait Fred, il aura plus de temps Arsenal qu'il en aurait ailleurs. Il aura un vestiaire beaucoup plus facile à gérer que celui qu'il avait ailleurs.
Est-ce que je peux rajouter juste un petit truc?
Reste une minute à Philippe.
C'est pas que le vestiaire au Paris Saint-Germain. À chaque fois, on parle du vestiaire et on parle de Neymar. C'est pas ça.
C'est que Arsenal,
il y a une structure, le club est structuré, et c'est ce qui manque au PSG. Et c'est pour ça qu'on peut jamais dissocier l'échec d'Emery de celui du manque d'autorité.
Il y a maintenant une véritable structure en place avec Raoul Sanéhi qui est venu, le directeur sportif de Barcelone, le Sven Mislintat qui est arrivé du Borussia Dortmund. Il y a une toute nouvelle structure qui est en train de se mettre en place. À mon avis, ça ne sera pas l'année prochaine qu'Arsenal sera champion, c'est évident. Mais en tout cas, il est là pour créer quelque chose, et c'est un choix encore une fois complètement compréhensible et totalement respectable.
Merci beaucoup, Philippe.
Une tête de taureau, ça coûte une fortune. Une tête de taureau de corrida empaillée, c'est magnifique, quoi.
Ah ouais.
Pour nous offrir ça.
Ouais, c'est vrai.
On parlait d'animal de compagnie, effectivement. Chacun son délire. Mais il n'y a pas que toi qui as des animaux de compagnie. Hein. T'as pas le monopole de l'animal de compagnie.
J'ai fait des cauchemars la nuit là.
Par contre, quand c'est la Saint Isidro, c'est en fait en ce moment c'est la Coupe du Monde de la corrida, quoi. Championnat du monde de la corrida, c'est pendant un mois à Madrid, qui c'est pas les arènes les plus grandes, mais ce sont les arènes les plus prestigieuses au monde. Et en ce moment, voilà, c'est voilà, donc très bon choix de notre réalisateur.
Et par contre, quand Daniel parlait d'utilité de l'animal de compagnie, autant le chat, je le rejoignais pas, que là le taureau.
Non mais après, il y a que la tête et que tu mets au mur, hein, c'est pas grave.
Ouais, effectivement.
Est-ce que t'empailleras Péry quand il sera plus de ce monde?
La tête,
Simone. Non mais arrête là.
Bah quoi?
Bah tu pourrais.
C'est une vraie question. Il y a des gens. Penser à ça, ça me brise le cœur.
Comment on a fait ça, Joe?
On n'a pas les camps. On doit faire les habitants chez qui t'es brisé mon cœur.
Quel âge il a ton chat?
Il a 3 ans.
Ouais, mais prépare-toi psychologiquement. Il te laisse de s'ouvrir une voiture passe, ça connaît très vite. Ton avis tranché, mon Fredo. Alors il concerne la mort, puisqu'il y a la liste des 23 qui est tombée aujourd'hui, mon Fredo. Et pour toi, cette liste, elle est parfaite.
Oui, bien sûr, je ferai un avis tranché vendredi soir sur la finale de Ligue des Champions. Et on parlera du Real de manière plus précise. Mais ce soir, l'actualité, c'est la liste des 23 de Lopetegui. Eh ben, franchement, elle est parfaite parce qu'elle est faite avec du bon sens. Mais c'est un petit peu ce que fait ce sélectionneur depuis qu'il a repris une Roja qui venait de connaître 2 échecs consécutifs, le Mondial 2014, l'Euro 2016, qui avait remplacé un mythique sélectionneur comme Vicente Del Bosque. Et c'est un type qui est pas là pour faire des grandes déclarations, qui est pas là pour se battre avec les joueurs. Voilà, il est pas dans la polémique tout. Il est guidé par le bon sens. Ça pourrait être dingue dans le monde d'aujourd'hui, mais oui. Et quand je vois cette liste, alors je vais vous la dire rapidement, hein, puisqu'on aura comme gardien 3 gardiens: Kepa, De Gea, Reina. Défense: Alba, Azpilicueta, Carvajal, Nacho, Monreal, Odriozola, Piqué, Ramos. Au milieu: Isco, Busquets, Thiago Alcantara, Silva, Iniesta, Saúl, Coque. Devant: Lucas Vázquez, Rodrigo Moreno, Diego Costa, Iago Aspas et Marco Asensio. Alors vous allez me dire, il manque quelqu'un. Il manque Morata.
Calerone.
Mais sauf que Morata, c'est le remplaçant de Giroud à Arsenal.
Ouais, c'est vrai.
Il est rentré
à Chelsea.
À Chelsea, pardon. Voilà. Bah, c'est vrai que Giroud à Arsenal s'était associé pendant de nombreuses années.
C'est vrai.
Conte qui dit Antonio Conte, hein, qui dit ah mais moi si j'étais Lopetegui, je prendrais bien sûr Morata au Mondial, sauf qu'il fait pas jouer. À la Cup, il a fait rentrer un Philippe à la 88e, c'est ça, hein, je crois. Voilà. Et aussi.
Il y a pas Mata, il y a pas Marcos Alonso non plus. Il manque quelques joueurs de première ligue.
Après Mata, il était plus important, hein, en sélection depuis un moment. Puis je veux dire, les milieux
de
terrain,
il y a des problèmes de riches.
C'est ça le problème. Hein, voilà. Marcos Alonso, oui, c'est peut-être le seul. On se dit pourquoi il a pris Montréal et pas Marcos Alonso. Bon, à un moment, il faut faire un choix.
C'est pas profil, non, Fred?
Voilà, profil. Puis
il est
Montréal
plus latéral.
Est un homme de confiance. Il est là depuis le début avec Lopetegui. Et puis sur le cas Morata, il y a 2 raisons. La raison déjà sportive, parce que Morata ne joue plus, parce que Morata a été de nombreux matchs sans marquer. Et puis, les amis, il y a une raison personnelle. C'est que l'entourage de Morata est en train de bousiller la carrière de ce bon petit joueur de football. Quand vous avez un papa qui était un ancien chef de pub de gros groupes de médias espagnols, qui connaît beaucoup de journalistes, et qui, par exemple, quand son fils était au Real et était remplaçant au Real Madrid, même s'il jouait beaucoup plus qu'il n'a joué aujourd'hui cette saison à Chelsea, envoyait des messages pour influencer les journalistes, notamment en insultant certains concurrents
Il a pas fait ça quand même.
Bah oui, bah je les ai vus, mon ami. Hein. Oh là. Donc je fais là certains concurrents. Donc ça s'est su dans le vestiaire. Simonet, t'as entendu parler que du temps de la Juve, la première saison ça allait, mais la deuxième saison, bah le papa aussi ça allait pas très bien, qui est dirigeant de la Juve. Là à Chelsea, bon, il a moins d'influence en Angleterre, mais bon, il transmettait des messages sur Conte, etc., à des relais espagnols, etc. Et donc je pense que au moment de faire un choix entre un Iago Aspas, par exemple, qui est un attaquant merveilleux, un Diego Costa qui a montré que depuis qu'il est arrivé à l'Atlético au mois de janvier, il a un profil différent, il peut apporter des choses différentes, et en plus en sélection, ça marche, lui, ça marche maintenant. Voilà, voilà, au moment de faire le choix, bah, un joueur qui risque de par son entourage d'apporter des problèmes au sein du groupe, bah voilà, c'est
mais c'est
normal.
Même, c'est juste, tu l'as dit, hein, c'est sportivement, il y a aucun.
Oui,
y a
mais pas en plus, c'est cette petite donnée-là, simplement. Parce que pour apporter cette donnée-là.
Mais je me suis toujours demandé pourquoi Calderón n'était jamais convoqué.
Parce que Calderón, c'est un bon joueur, mais c'est quand
même des belles saisons.
C'est une partie catastrophique.
Il est sur les rotules, là.
Ben ouais, mais en Espagne, c'est un remplaçant. Il était au Real de Mourinho, c'est un remplaçant, voilà.
Il a progressé quand même depuis qu'il est parti.
Oui, mais t'as vu les mecs qu'il y a.
Ça m'aurait pas choqué de le voir.
Regarde, Lucas Vázquez, par exemple, c'est un joueur, c'est un bon petit joueur, c'est pas une star du foot. Sauf qu'il est tellement discipliné. Il est tellement dans une bonne forme physique. Zidane lui dit, tu vas jouer ça, tu fais ça, voilà. Aussi, il y a des joueurs comme ça qui sont très pratiques. Nacho et Lucas Vázquez, ce sont des joueurs pratiques qui complètent un groupe et qui peuvent être décisifs à un moment ou à un autre s'il y a un blessé, s'il y a un suspendu, s'il y a besoin de quelque chose. Donc voilà. Le bon sens a prévalu. Donc la liste de Lopetegui est parfaite.
Juste Philippe, je voudrais avoir ton avis quand même parce que c'est vrai qu'il y a certains joueurs de première ligue qui sont absents. Fred vient de le dire. C'est vrai que prendre Monreal plutôt que Marcos Alonso ou quoi, ça peut prêter à débat. Bon, après, c'est lui le sélectionneur.
Même si Marcos Alonso ne termine pas la saison dans les meilleures dispositions, un petit peu à l'image de toute son équipe de Chelsea et Nacho Monreal, je pense, comme l'a dit Fred, il y a aussi une question de fidélité du sélectionneur vis-à-vis de Nacho Monreal qui a toujours été absolument impeccable. Il a eu des petits problèmes physiques cette saison avec Arsenal, mais il n'a pas été le plus mauvais. Et c'est plus une question d'affinité, je pense, entre le joueur et le sélectionneur qu'autre chose. Ouais. Il y en a d'autres qui sont pas là. Hein. Je pense à un joueur qui fait une très belle saison, mais dont on parle très peu, et il a fait une très belle saison en pointillé, c'est Juan Mata, qui a été formidable avec Manchester United. Mais bon, je sais qu'il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a beaucoup de monde à ce niveau-là.
Il faut expliquer une chose aussi, c'est que Lopetegui a été le sélectionneur des espoirs qui ont gagné l'Euro en 2013 en Israël. Il a des mecs à lui.
C'est normal.
Thiago Alcantara, Rodrigo Moreno, voilà, c'est normal. C'est De Gea, bien sûr. Voilà, De Gea qui sera bien sûr le gardien titulaire. Donc voilà, c'est que bien sûr en Espagne, on essaie toujours de trouver de la polémique. Ça fait partie de la culture du foot espagnol. Et là, franchement, c'est quand même difficile. Il faut vraiment gratter très très fort pour trouver un pelo, c'est-à-dire un B à MIS à l'Ojolais de Petegui.
Et Fred, une dernière petite question, si tu devais nous faire le 11 type là.
Bah, de toute façon, le 11 type, la défense, elle est, enfin, le gardien d'Herrera, la défense, on aura Jordi Alba à gauche, Carvajal à droite, Ramos Piqué, au milieu, on aura Busquets, on aura Iniesta, on aura, Coquet ou Saúl, oui, Coquet, mais plutôt Coquet. En 4-3-3, et puis devant, on aura Silva, on aura Isco, et un mec en pointe ou un faux numéro 9.
D'accord. Un petit mot également.
C'est pas mal quand même. Hein.
C'est pas mal. Ouais.
Un petit mot Fredo sur Dembélé. Alors, il est sorti hier sur blessure face à la Real Sociedad. Voilà. On rappelle qu'il est dans les 23 français. C'est grave ou pas alors?
C'est pas grave, c'est une entorse. Voilà. C'est une entorse. C'est une simple entorse. Après, une simple entorse, c'est pas comme une déchirure musculaire, parce que on disait, ouais, Payet, il s'est blessé aussi. Oui, mais sauf que Payet, c'est une déchirure musculaire, ça se traite pas de la même manière qu'une entorse.
Bah non.
Une entorse.
Mais c'est bien fait découper.
Ça dépend de l'entorse. Sport.
Ça aurait pu être, par rapport à la faute qu'il y a eu, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Ouais. Il s'en sort plutôt bien. Voilà. En Espagne, on estime que dans 15 jours, il sera opérationnel.
Et un petit mot également, alors, sur les adieux de Torres et d'Iniesta, deux légendes, hein, quand même, hein, qui se barrent, là.
Je dirais même une troisième qu'on n'a pas beaucoup vu, qui c'est Xavi Prieto, qui est une légende de la Real Sociedad, et qui est parti lui aussi en même temps que qu'Iniesta, puisque c'était le match opposant le Barça à la Real Sociedad. Bah, c'est-à-dire que, pour commencer par celui dont on a un peu moins parlé, Diego Torres, qui est un journaliste, Fernando Torres, parce que c'est vrai qu'Iniesta, il est dans le cœur de tous les Espagnols, parce qu'il a marqué le but de la finale du Mondial. Mais rappelez-vous que cette aventure, elle commence deux ans avec auparavant, l'euro, oui. Avec l'Euro, avec un Fernando Torres qui marque le but de la finale 1-0 contre l'Allemagne, faut pas l'oublier.
Non, oui.
Et que Fernando Torres est un type, Philippe le sait, en Angleterre, c'est vraiment un mec bien. C'est vraiment
un mec adorable.
La manière dont il a dit au revoir hier aux supporters, c'était vraiment bien, quoi. C'est classe. Il a pleuré en parlant de son grand-père. Il m'a dit, mon grand-père m'a donné le plus beau cadeau qu'il pouvait me faire, c'est-à-dire faire de moi un supporter de l'Atlético. Voilà, c'était bien. C'était pas too much. J'ai l'impression quand même que sur Iniesta, il y a eu beaucoup. C'était juste le bon moment. Il fallait plus en faire trop parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'hommages. C'était le dernier. Ils n'ont pas dépassé la limite. Voilà. C'est vraiment, j'ai trouvé ça bien. Tout le monde a fait ce qu'il fallait sans en faire trop. Voilà. Donc voilà, c'est génial. Et on a Fernando Torres qui n'arrête pas sa carrière, qui va partir soit en MLS aux États-Unis, soit en Chine. Et puis on se dirige de plus en plus vers le Japon pour Iniesta, qui a reconnu qu'il avait trouvé un accord avec un club, mais qu'il l'annoncerait dans les prochains jours.
Ouais, ce sera pas la Chine au final, donc. Ouais.
A priori, ce serait plutôt le
Vissel Kobe.
Ouais, exactement.
Il va manger de la bonne viande.
Ah oui, qu'elle est bonne là-bas. Ouais.
Donc, important. Tiens, voilà, je vous donne une petite info également. Je vous donne, puisque ça concerne également le groupe de l'Espagne, hein, pour la prochaine Coupe du Monde. Sachez que l'Iran a dévoilé ses 24 joueurs convoqués aujourd'hui. L'équipe emmenée par Carlos Queiroz. Alors il y a la présence de Shojaei et Aifazi. Alors ça vous dit peut-être rien, mais c'est deux joueurs qui avaient été écartés en août 2017 parce qu'ils avaient affronté une équipe israélienne. Alors ils avaient été suspendus par la fédération et Carlos Queiroz, eh bien, les a finalement rappelés. Il a eu l'autorisation de la Fédé de les rappeler et ils sont dans la liste des 24. Donc il reste un joueur. Il y a un joueur qui sortira de cette liste. Bah tiens, on va passer à ton avis tranché également, Sacha, puisqu'aujourd'hui, il y a la liste des 23 également de la Belgique qui est tombée. Et alors, patatras, pas de Nainggolan. Il est pas là, le milieu de terrain. Gars,
on va commencer calmement. Je vais citer la réponse.
Je suis très calme, ok?
Je vais citer ce qu'a dit tout simplement Roberto Martinez en conférence de presse pour justifier son choix. Et puis par la suite, on va essayer d'analyser tout ça. J'ai fait ce choix pour des raisons tactiques. Au cours des deux dernières années, l'équipe a joué de manière très défensive. Nous avons mis en place un système bien spécifique et d'autres joueurs se sont imposés à cette place. Raja joue dans une équipe dans laquelle il peut évoluer de la meilleure des manières, mais je ne peux pas lui donner cette place en équipe nationale. Alors à qui va-t-il donner cette place? C'est la question que je pose à tous les auditeurs, à vous. Moi, la question que je me pose vraiment aujourd'hui, c'est comment est-il possible de se passer de Raja Nainggolan, qui est une personne qui, d'abord, peut jouer et de manière très très efficace et impactante dans le jeu, aussi bien dans une position de soutien d'attaque, qui est capable, quand la situation effectivement...
d'aller au bal à baston.
Exactement, en position numéro 6.
C'est une personnalité, surtout.
Il est capable de jouer où vous voulez. Raja Nainggolan, il faut simplement... En fait, qu'est-ce qu'il faut faire avec Raja Nainggolan pour être quelqu'un qui suit et qui analyse vraiment beaucoup son jeu? Il faut tout simplement prendre en compte son caractère anarchique. Donc,
il faut l'aimer.
Non, il faut l'aimer. Il est impossible de ne pas aimer une personne qui donne son âme sur un terrain. Tu peux le demander à tous les supporters de la Rome, à tous les gens qui regardent la Serie A, c'est comme ça.
Tu vois, lui, c'est roulé les airs. Vas-y.
Franchement, il dit mieux Roma que toi.
Roma, c'est pas dur.
Il dit mieux Roma que toi.
Mais c'est par ailleurs ce que n'a pas compris, tout simplement, Roberto Martinez. Roberto Martinez, il n'a pas compris que ce mec-là, fallait le prendre comme il était et l'intégrer dans le groupe. Lui, il prend ce caractère anarchique comme un défaut. C'est-à-dire que qui est-il, Roberto Martinez? C'est une personne qui va, à un moment donné, décider politiquement sur base de joueurs qu'il connaît très bien, dont il a la certitude qu'il n'y aura pas de problème pour construire un groupe de sélectionnés et sur lesquels il pourra, à un moment donné, continuer et faire quelque chose d'intéressant durant la Coupe du Monde.
Tu le fais jouer où dans cette équipe où il y a tellement de milieu, c'est une vraie question.
Honnêtement, tu le mets où? Honnêtement, tu le mets où tu veux. Donc ici, Roberto.
Mais non, tu peux pas le mettre où tu veux. Robert... Tu as Lukaku qui sera en pointe. Tu auras Eden Hazard qui sera en soutien.
Déjà qui est en pointe. Pourquoi c'est un fait? Pourquoi c'est devenu quelque chose de factuel? qu'est-ce que c'est que cette lubie? Il est tout à fait possible de jouer avec quelqu'un d'autre que Romelu Lukaku.
Tu mets qui devant toi?
Mais moi, je peux très bien mettre Dries Mertens. Je peux jouer avec un travail sur les automatismes. Je peux travailler. Voilà, je peux jouer avec un travail sur les automatismes. Première balle, tout simplement. Tu vois la vitesse que tu peux avoir devant. Bon, tu parlais du Barça tout à l'heure, Fred. Il y a un joueur qui est plutôt pas mal du côté de qui a affronté le Barça ce week-end. C'est Adnan Januzaj. Il fait.
Januzaj. Non, mais ça fait deux saisons magnifiques.
Merci.
Alors à Sociedad, c'est un bon joueur. Hein.
Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des solutions.
Mais alors attends, Sacha. Moi, je vais te poser la question différemment. Ouais, Roberto compliqué. Martinez aujourd'hui, il explique qu'il veut pas de Nainggolan parce que c'est un problème tactique. Toi, t'as pas l'air de croire ça. Alors c'est quoi? C'est un problème humain. C'est un problème de personnalité.
Alors, après les informations que j'ai pu récolter ces derniers jours, il semble évident qu'il y a un problème personnel entre les deux individus.
Ah. Et ben ça peut se comprendre du coup, Sacha. Autant il est vrai que techniquement qu'on aime tous ce joueur-là parce que à le voir jouer, c'est un régal, c'est une vraie mobilette. Et comme tu l'as dit, on ne peut qu'aimer ce genre de joueur qui donne corps et âme. Mais s'il y a un problème avec le sélectionneur, s'il y a un problème, ça cause un déséquilibre dans le groupe, tu pars pour une aventure qui va durer plusieurs semaines. On peut comprendre que le joueur soit écarté, même si sportivement c'est très bizarre.
Qu'il le suit à la Roma. Quand cet hiver, il s'est présenté live en Periscope, non, c'était pas Periscope, c'était Instagram, bourré les jours d'élan, en disant je suis bourré, je suis, je vais faire la fête, etc. avec la bière.
C'est le jour de l'an.
Ils ont exclu. Pour des raisons de caractérielles, pour des raisons d'attitude, mais je pense que Martinez, si
oui, mais il aura pas le jour de l'an, la Coupe du Monde.
Non, mais attends, si tu veux dire, il fume, il boit, il pose des problèmes, tu peux les dire. Tu peux pas te cacher derrière, c'est un problème tactique, parce que pour prendre Vincent et Fellaini, qui sont des joueurs similaires, tu peux prendre aussi un Nainggolan à la place d'un ou l'autre, qui est un joueur qui a des caractéristiques qui personne a. Alors, pas seulement dans la Belgique, mais dans plusieurs championnats du monde.
Il est absolument indispensable.
Mais si son comportement n'est pas,
franchement, à un joueur qui a ce niveau-là, qui est capable de jouer à des places aussi différentes, on s'en fout de son comportement.
Mais non.
Moi, je te dis la vérité. Non, on s'en fout de son comportement. Il est capable, à un moment donné, de faire des différences. Sacha, à chaque fois, dans chaque secteur de jeu, et c'est tout. Allez, ok. Regarde, on va parler des milieux de terrain qui existent. Effectivement, bon, Philippe, il y a Moussa Dembélé, j'en parlais dernièrement avec Damien Comolli qui me disait pour lui c'est le meilleur joueur.
Il a fait une deuxième partie de saison notamment avec Tottenham, voilà. Magnifique.
Ça, il est énorme.
Voilà, ok. On part de ce principe-là. Ce gars ne sera pas titulaire au départ à la Coupe du Monde parce qu'il y a effectivement cette espèce de Witzel mania du côté de la Belgique.
Oui, ça, c'est vrai, on a jamais compris.
Ce mec, à un moment donné, qui joue en Chine, qui est complètement largué, carbonisé, il a déplacé deux assistants préparateurs physiques avec les Diables Rouges pour essayer de réparer un retard immense. Pareil pour Yannick Ferreira Carrasco. Tu peux demander à Fred.
Il a un genou, mais en compote,
complètement explosé. Il se fait mettre des infiltrations. C'est pour ça qu'il est parti. Simeone ne pouvait plus le blairer. Il y a un moment donné.
Il a une attitude en plus, Carrasco.
Oui, il y a eu des disputes, notamment avec Gabi et
Sacha, je suis d'accord avec ce que tu dis, il n'y a pas de problème. Mais si le mec cause problème dans le groupe, je suis désolé, c'est très bête ce que je veux dire, mais c'est tout à fait normal de ne pas le prendre.
Alors, dans le groupe, il n'y a aucun problème avec Rajan.
Non, mais c'est vis-à-vis d'entraîneur. Dans ce cas-là, tu vois, c'est le même, t'as la même ligne de conduite que ceux qui pensent que Benzema pourrait retourner en équipe de France. C'est le même cas.
Sauf que Benzema, il ne filme pas en train de faire,
c'est encore ce
que
je veux dire. Mais c'est encore pire. S'il y a un problème avec le sélectionneur, c'est lui le capitaine, c'est le maître à bord, c'est trop tard pour changer, quoi qu'il en soit. Tu pars pour un mois, le mec, c'est normal qu'il va pas s'en mettre dans ses valises un mec qui lui cause des soucis.
Alors, juste une chose, Philippe, toi, tu connais bien Roberto Martinez. Il en a longtemps entraîné.
Je le connais vraiment bien, en plus.
Alors, est-ce que ça t'étonne, toi, justement, qu'ils prennent pas Nainggolan, alors? Est-ce qu'il est vraiment très pointu là-dessus?
Ça m'étonne un petit peu dans la mesure où Roberto Martinez est quelqu'un qui est un hyper diplomate et qu'il pousse même la diplomatie jusqu'à un défaut. Et que c'est pas son genre de prendre des décisions controversées. C'est quelqu'un qui essaie plutôt de ménager la chèvre et le chou en permanence, qui est sans arrêt dans...
C'est un homme politique.
C'est un homme politique, mais c'est aussi quelqu'un qui tactiquement a des idées très précises. Il veut faire jouer l'équipe de Belgique avec un back three, avec trois derrière. Je te garantis, c'est pas à moi de te le dire, mais ça marche pas nécessairement. Mais du coup, ça restera un petit peu ses options. Et s'il pense, en effet, que Nainggolan n'a pas sa place tactiquement, là, par contre, c'est l'une des rares choses où, pour moi, il est, absolument intransigeant. C'est le mot qui convient. Mais l'équipe dont tu nous parles, donc si tu as Axel Witsel, qui est là et qui tu auras à ses côtés si tu prends un 3-4-3 par exemple.
Donc on joue le 4, le le 3-4-3 de base. Donc effectivement, il y a De Bruyne dont tu peux évidemment pas te passer.
Sur les
côtés, Hazard. Non, Hazard jouera en position donc d'attaquant de soutien à Romelu Lukaku. Et puis devant, il y a ce choix. Est-ce que ce sera Thorgan Hazard? Est-ce que ce sera Dries Mertens? Thorgan fait une super fin de saison avec Mönchengladbach.
Ah, pour le moins, oui,
Mertens, il est cramé là.
Et Mertens, c'est effectivement fait un peu à l'image de Callejon une mauvaise seconde partie de saison. Ceci dit, le problème fondamental, en fait, on devrait pas devoir parler de Rajan N'Golan, à mon sens, parce qu'effectivement, pour moi, voilà, il a été indiscutable, donc c'est difficile, effectivement, d'entendre des avis, d'un point de vue sportif, tout du moins, à son encontre. Cependant, sur le côté gauche, on a un vrai problème, c'est le problème fondamental de la Belgique, il réside sur cette position de latéral gauche. Il faut se poser une question, quand tu as un joueur, on vient d'en parler avec Fred, qui n'est plus capable, comme Yannick Ferreira Carrasco, de faire le couloir comme il en était auparavant capable, c'est-à-dire il y a un an et demi. Aujourd'hui, sur le côté gauche, tu mets qui? Tu mets Jordan Lukaku qui est rentré. Alors là, pas très très bon du tout.
Ça a été compliqué. Ça a été très compliqué.
Voilà. Et donc, la solution, ce serait Adnan Januzaj. Mais il se contredit. Il prend Chadli. Chadli, c'est 40 minutes de temps de jeu en 2018. Adnan, il a été appelé en novembre, il n'a même pas joué une minute. Michy, il est toujours pas rétabli à son problème à la cheville. Et en tout, on a le sentiment, en Belgique tout du moins, qu'il y a véritablement du favoritisme pour la Première Ligue. Voilà, on sait qu'il aime la Première Ligue, il est très proche et parfois, moi je pense qu'il y a des choses, bon Philippe, tu es proche de lui, ou en tout cas tu le connais bien.
Je le connais.
Il y a des choses qui ne sont pas correctes. Moi je trouve qu'à un moment donné, un mec comme Roberto Martinez, il doit pas expliquer aux Anglais comment il faut faire jouer Kevin De Bruyne sur une télé anglaise. Ça c'est des trucs qui sont c'est pas bien pour nous quoi. On a déjà du mal, on se tire une balle dans le pied et en plus de ça on donne des secrets à l'adversaire, mais achetez-les, hein, comme on dit en irlandais.
Bien sûr. Allez, c'est terminé. Merci beaucoup Sacha pour ton avis.
12 balles pour vous. 12 balles pour vous. 24 balles. Quel gâchis pour des gens comme vous. Qui sont vos complices?
Voilà, on était dans les clichés, on continue bien entendu avec toi mon Lorto. Alors ton avis tranché, il concerne une information qui a fait beaucoup parler en Allemagne. On a tous vu il y a quelques jours une photo de Mesut Özil et de Hakan Gündoğan qui posaient avec le président turc Erdogan, alors qu'il est en pleine campagne électorale en plus en Turquie. Alors
l'élection le 24 juin, effectivement.
Voilà, ils leur ont offert un maillot d'ailleurs, les photos ont beaucoup fait parler. Et toi tu voulais réagir là-dessus justement David?
Oui. Bien sûr. Alors, j'y viens tout de suite, simplement en breaking news très vite, vous dire que ce soir, parce que l'actu est évidemment aussi essentiel pour nous, ce soir, le Wolfsburg,
bien sûr,
qui a un budget 12 fois supérieur à son adversaire Holstein Kiel, s'est maintenu en première division à l'occasion du barrage retour, en allant s'imposer 1-0 dans le nord de l'Allemagne à Kiel. Voilà, donc Wolfsburg sera encore la saison prochaine en Bundesliga. Et une affaire très très compliquée à aborder ce soir. Évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de cela, messieurs. Je vous refais rapidement l'histoire de cette histoire de photo, sachant que les deux joueurs que tu viens d'évoquer, Nico, pèsent très très lourd au niveau de l'image dans la Nationalmannschaft, au niveau du poids qu'ils peuvent avoir et l'influence qu'ils peuvent avoir. Ilkay Gundogan, joueur de Manchester City que Philippe a appris à apprécier, même s'il le connaissait avant qu'il n'arrive en Angleterre. Et Mesut Özil. Mesut Özil, c'est 30 millions de suiveurs sur Facebook, 20 millions sur Twitter. Il est très très loin devant n'importe quel autre joueur de l'équipe d'Allemagne. Et Ilkay Gundogan, de son côté, a investi 5 millions d'euros récemment pour la construction d'un parc commercial en Turquie dans la région de Balikpeshir. Pourquoi je vous fais ces précisions-là? Parce que ces deux joueurs, donc, eh bien, on rencontrait dans un hôtel de Londres il y a exactement une semaine le président turc Erdogan. Photos qui ont été publiées, échange de maillots de la part des deux joueurs avec le président turc. Photos qui ont été publiées par le pouvoir turc. Et derrière, évidemment, gros malaise en Allemagne à partir de cela. Les clubs concernés sont bien mal à l'aise avec cela. Il me semble que à Manchester City, on ne veut pas faire de commentaires et Arsenal, on considère que c'est une affaire privée, Mais quand vous avez 30 millions de followers sur Twitter, c'est compliqué d'en faire une affaire privée. Donc les clubs ont du mal avec cela. Les sponsors de l'équipe d'Allemagne, et notamment Mercedes, qui a comme ambassadeur Mesut Özil et Ilkay Gundogan, ont beaucoup de difficultés à communiquer sur cette Mercedes, qui a comme ambassadeur Mesut Özil et Ilkay Gundogan, ont beaucoup de difficultés à communiquer sur cette affaire aussi.
La Fédé, elle a communiqué là-dessus. Hein. D'ailleurs, Bierhoff a parlé, le manager.
Alors justement, je refais rapidement le déroulé de cette affaire, puisque c'en est une affaire très très large, politique, d'intégration, sportive aussi. Les deux joueurs donc sont présents dans un hôtel londonien dimanche en 8 dernier avec le président turc. Derrière, les photos sont publiées. La fédération allemande est obligée de réagir, d'appeler ses joueurs. Pour certains, et notamment Gundogan, en vacances bien bien loin à Dubaï, pour essayer de recadrer un peu tout cela. Dans la foulée de la rencontre, je crois que c'était mardi dernier, le président de la République allemande a reçu les deux joueurs également. Alors, on ne sait pas à la demande de qui.
Bah si, lui, il explique que c'est la demande des joueurs. C'est ce que dit le président sur Facebook.
Il y a deux versions. Ça, c'est la version du président. La version de la Fédé, c'est les joueurs, ils sont allés d'eux-mêmes voir le président. Et notamment, Joachim Löw qui défend cette version-là. Et évidemment, en Allemagne, on est un peu embêté avec cela parce que figurez-vous qu'en 2024, il y a un euro qui se présente. Et les deux candidats principaux à cet euro sont l'Allemagne et la Turquie. Et évidemment, en Allemagne, étant donné que on a plusieurs millions de germano-turcs d'une part et de turcs d'autre part, qui sont dans un processus d'intégration, qui sont dans un processus de brassage parmi les 80 millions d'habitants de l'Allemagne, ça pose évidemment grandement question. Moi, je considère cette rencontre avec le président turc inadmissible du point de vue médiatique et journalistique, dans la mesure où, et ça c'est un avis personnel que je souhaite aussi évoquer ce soir, dans la mesure où le régime turc n'a pas un rapport très très démocratique avec les médias et avec les journalistes. Donc de ce point de vue-là aussi, il n'était pas possible de passer à côté de cette affaire-là ce soir. On aurait pu réagir à chaud la semaine dernière. Avec un peu de recul, on s'aperçoit que c'est une affaire quand même qui a pris une grande ampleur, même si mardi dernier, le sélectionneur, et j'en terminerai par là, a appelé les deux joueurs dans la liste très légèrement élargie des 27. Gundogan et Özil seront présents à la Coupe du Monde, et évidemment on essaye d'apaiser les choses. Et le président de la République en Allemagne a invité les joueurs aussi, qui l'ont fait, à corriger un petit peu leur discours en disant
Attendez,
il y a un élément familial en Turquie, notre équipe nationale bien sûr c'est l'Allemagne.
Il y a un élément qui est important, alors moi de savoir si la visite, enfin ce que Mesut Özil et Ilkay Gundogan allaient voir Erdogan, ça c'est leur problème, mais il y a quand même il y a quand même le point essentiel qui est le contexte. On sait que c'était hier, Erdogan a tenu un meeting en Bosnie, c'était ce qui est une provocation contre l'Union européenne, sachant que Erdogan est interdit de meetings électoraux dans la plupart des pays de l'Union européenne, et donc dont l'Allemagne a été, on va dire, le leader de la front anti-Erdogan pour l'interdire justement de tenir des meetings. Et il est vrai que deux joueurs allemands qui vont quelques jours auparavant rendre visite au président, diplomatiquement, ça fait vraiment tâche, et l'Allemagne a été un petit peu ridiculisée par l'action de ces deux joueurs-là.
Alors, il y a une question importante que je voudrais poser à David. Mesut Özil est d'origine kurde. C'est d'autant plus étonnant.
C'est totalement incohérent géopolitiquement. Bien sûr, oui.
C'est ça aussi, parce qu'il est, il est allemand d'origine turque, mais turc kurde. On sait, c'est un tiers de la population de Turquie qui est d'origine kurde. Donc c'est d'autant plus étonnant quand on sait le peu de sympathie qu'a le président.
C'est plus compliqué
pour les Kurdes.
C'est beaucoup plus compliqué que ça.
Oui, c'est plus compliqué. Oui, c'est pour ça. Mais on sait un peu le rapport. On sait que Erdogan quand même bombarde les Kurdes. Hein, on le sait.
Certains Kurdes.
Donc,
La vraie question, et journalistiquement, je pense qu'il faut la poser, c'est d'où provient cette proposition et qui sont les intermédiaires qui, à un moment donné, ont façonné cette arrivée
Il y a deux versions
sur le sujet. C'est le pouvoir turc ou des entrepreneurs de Turquie. On n'a que deux versions et on n'a pas d'informations supplémentaires.
Des entrepreneurs de Turquie, c'est-à-dire ça serait quoi, des sponsors potentiels, des...
Oui, la sphère économique, disons.
D'accord.
Mais dans ce cas-là, les joueurs n'ont pas, ou c'est leur conseiller, un peu de recul pour poser la question à la fédération, pour dire, il y a ça, qu'est-ce qu'on fait ?
Bah en tout cas, c'est a posteriori que le correctif, si on peut appeler ça comme ça, a été fait.
Et j'insiste, hein, avec ce qui s'est passé en Bosnie, ce qu'ont fait Mesut Özil et Gundogan, c'est un véritable pied de nez. Enfin, ça peut être pris comme un véritable pied de nez, et l'Allemagne est ridicule, est ridicule, quoi.
Parce que les Allemands. Moi, j'aime pas juger les individus, mais Ilkay Gundogan a donc remis son maillot au président turc en dédicaçant, en disant mon président très honoré.
Ouais.
Ça la fout un peu mal, effectivement.
Merci David pour ton avis tranché. On va passer à celui de Simone Rovera. On file en Italie avec Perry, bien entendu.
Kelly, que j'adore, que je lui donnerai les clés de la maison, les yeux fermés, la poussette avec ma petite, j'ai totale confiance à Giorgio Kelly dans le terrain et dehors le terrain.
Est-ce que tu lui confies Perry, ton chat?
Oui.
Ah, c'est dire.
Parce que Perry dort en dessous de la poussette, donc s'il donne la poussette, il y a Perry dedans aussi.
Très bien. Alors, ton avis tranché, il concerne eh bien un club qui est de retour en Serie A la saison prochaine, Parme.
Oui, et c'est que la plus belle histoire qu'on a vécue cette année en Serie A, qui était une saison extraordinaire, en Serie A dans les championnats italiens, qui est un championnat dont on a vécu plein de belles choses, l'épopée européenne de la Roma, les titres de la Juve, la lutte avec Naples. Pour moi, reste quand même cet extraordinaire exploit du Parme, que oui, est retrouvé la Serie A, mais surtout a connu 3 montées en 3 ans consécutifs.
Oui, ils étaient repartis en Série D, hein.
Ils avaient déposé le bilan. En Série D, 4e division, ils avaient déposé les bilans, ces clubs à sa façon historique, parce que quand même dans 9 ans, entre les 90, sa première montée, en 99, ils ont gagné 4 coupes européennes, 3 coupes d'Italie, 2 coupes d'Italie, sont arrivés 3 fois sur les podiums de la Serie A, donc ils ont fait des grosses pages du football italien et européen, et ils ont eu cette malchance de la saison 2014-2015 avec la dernière place, les dépôts du bilan. Ils ont connu 7 précédents dans cette année. Imaginez combien de fois ils passaient des mains ces clubs avec une magnifique histoire et qui a fini très très mal. Et cette saison, sans vraiment avoir l'ambition de monter tout de suite, ils sont quand même réussi à faire quelque chose d'extraordinaire sur la continuation de ce qu'ils ont commencé donc il y a 3 ans. Et il y a un héros vraiment dans ces périodes, dans ces années, et c'est le capitaine Alessandro Lucarelli, qui c'est son 9e saison à part, mais c'est le seul qui jouait en Serie A, qui a décidé de rester en 4e division.
Attends, mais il a quel âge lui maintenant, là?
Il va faire 41 ans.
Oh la vache.
Et il a été symbole, pour vous dire, dans les 9 ans qu'il a joué à Parme, il a toujours marqué au moins un but, défenseur central, leader, charismatique, les frères de plus connus, peut-être on connaît plus son frère, Cristiano Lucarelli, qui a joué même en sélection.
C'est pas l'attaquant de Livourne, lui?
De Livourne, ouais. Qu'il a été
celui
au Shakhtar.
Ouais, extrême gauche, là. Un art, un peu.
Extrême gauche. Oui, c'est vrai. Parme, c'est une ville dont l'Italie du foot a besoin. Je sais pas s'ils arriveront jamais à réjouer les grandes places européennes, ce qu'elle est fait pour un coup d'Europe dans les prochaines années, ou gagner quelque chose. Mais la façon comme Parme est parti vraiment du fond et redevenu un club important et présent dans la carte géographique du football italien, je pense que ça doit être un exemple pour plusieurs clubs en Italie et en Europe, parce que Parme, c'est vraiment un acteur déterminant de la Serie A, et heureusement qu'ils sont retournés à leur place.
Sacha?
Il y a un homme, on en parlait il y a quelques temps, toi et moi, qui est très important à Parme, et j'aimerais que tu en parles, c'est Daniele Fagiano, qui est le directeur général de Parme. J'espère qu'il l'est toujours.
C'est un club qui a été racheté par des Chinois aussi, non?
Qui est très important dans ce club.
Cette année, il y a eu un nouveau président qui est chinois, qui a investi 18 millions d'euros dans le club. Donc, il y a aussi une participation étrangère. Avant de parler de Fagiano, qui est un homme importantissime, qui avait bâti un petit miracle, le Trapani, il y a quelques saisons, qui était arrivé à jouer la montée en Serie A. Donc, un homme qui connaît très bien le football. Et ça, c'est l'importance. Parme a été sauvé par 7 entrepreneurs, 7 hommes d'affaires local. C'est-à-dire des gens qui ont dit, nous, on veut pas faire rester notre ville sans football. On l'a sauvé. Et ils ont évité vraiment d'enlever le football à une ville si belle, si importante. Et petit à petit, ils ont laissé d'autres rentrer dans les affaires. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve avec cette ville dont personne, je pense, connaît aujourd'hui, au-delà de Lucarelli, les Calaio, les autres protagonistes de cette montée. On connaît peut-être plus les années de Buffon, de Aspria, oui, de Crespo, de Sensini, de Cannavaro, de Thuram, Melli, Ozio, c'est-à-dire, c'est des joueurs qui ont vraiment écrit l'histoire de ce club.
Avec les piqûres.
Arrête, là, c'est une piqûre. Bah, des piqûres pour être
enfin, on a déjà parlé. Mieux. On a déjà parlé. Ouais, hein.
Pas,
ça va, ils avaient une angine, les mecs. C'était pas
voilà, mal. C'était mal, c'était un piqûre.
Je sais ce que combien c'est que les produits qu'on s'injecte. J'en ai déjà pris, même, je l'avoue, mais je sais ce que c'est.
La piqûre. Là, tu parles des choses que tu connais pas et tu le parles d'une façon très méchante. C'est pas bien, ça.
Écoutez, je parle des choses. Je parle d'une finale qui a été.
Le dopage, c'est tellement cliché de dire des trucs comme ça.
On peut perdre des finales, même sans.
C'est comme la morue portugaise.
Exactement. On dope comme on peut. Hein,
on
les
peut
mecs.
Même perdre avant la finale, sans plus.
Voilà. Donc voilà, mon avis tranché, c'est que j'ai cherché de faire court parce que je voulais dire encore deux, trois choses sur la Serie A. Il y a eu l'adieu au football d'Andrea Pirlo ce soir. Un oui. Match amical s'est fini 7 partout à San Siro. Il y avait beaucoup de spectateurs, c'était San Siro presque comblé. Et Gigi Buffon en a parlé après les matchs, il participait au match, il a dit « Il me faut quelques jours pour réfléchir à mon avenir. »
Le scandale, le scandale, c'est Maggio que ça arrive même pas rentrer après 10 ans de bon loyer service en Napoli.
Ça c'est vrai. Merci beaucoup, juste petit teasing, on n'a pas eu le temps de parler de la liste des 23 de l'Argentine, tu le feras demain, je crois.
Demain,
il
n'y
a pas Icardi.
Mais Buffon a pris 7 buts, il vient venir au PSG.
Et on a un nouveau club en première division, historique, qui est passé par des moments difficiles. Huesca, qui vient de l'Aragon.
Oui. Oh là là.
Et de retour en première division, c'est officiel depuis quelques minutes, après sa victoire de ce soir.
Très bien. Et nous parlerons de Roman Abramovich, dont le visa a été débarrouillé. Attends, c'est énorme cette histoire.
Merci, nos drôles de dames.